Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Allez, on est de retour et on est ensemble, surtout jusqu'à 20h. Ne bougez pas, installez-vous confortablement. On va évidemment décrypter l'actualité. Elle est riche aujourd'hui, avant les législatives. Demain, on va parler, de diplomatie. Je reçois ce soir Nicolas Tenzer, géopoliticien, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie, enseignant à Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs essais, notamment « Quand la France disparaît du monde » chez Grasset. Bonsoir Nicolas Tenzer.
Bonsoir.
Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce qui se joue en ce moment en Ukraine. Alors, au-delà du conflit, il y a bien sûr la stratégie diplomatique déployée par les chefs d'État ces derniers jours. Et celle d'Emmanuel Macron, il faut bien le dire, interroge. Il envisage d'un côté de délivrer de nouvelles armes lourdes à l'Ukraine et il réitère en même temps son appel à ne pas humilier, c'est ses mots, la Russie. Message et posture ambiguë, tant vis-à-vis de Moscou que de Kiev. A-t-il raison, selon vous, de maintenir ce lien, même ténu, avec Vladimir Poutine ?
Écoutez, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté, effectivement, le discours qu'il a tenu le 3 juin et avant le 9 mai devant le Parlement européen sur l'humiliation, qui est évidemment assez malvenu parce qu'il vient de la propagande du régime de Poutine. Personne n'a jamais songé à humilier la Russie. Elle n'a jamais été humiliée, sauf qu'à ce qu'on considère que laisser la Russie commettre des crimes contre l'humanité est une humiliation. Donc ça, bien sûr, ça n'a pas de sens. Je crois qu'il a parfaitement compris, d'ailleurs, que les réactions étaient très vives. J'étais au cours des 3 dernières semaines à Tallinn, puis à Bratislava, puis hier encore à Varsovie. Quand on discute avec nos amis américains de l'Europe centrale et orientale, il est clair que ce discours
ne passe pas.
Mm-hmm. Il ne passe pas du tout. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est encore une fois sans doute 100 000 personnes qui ont été assassinées par la Russie en Ukraine. Et avant, on pourrait parler évidemment de la Tchétchénie, de la Syrie, où on le rappellera toujours, la Russie de Poutine a commis finalement plus d'assassinats sur les civils syriens que même Daesh. Donc, je veux dire,
c'est le vocabulaire qui vous dérange ? C'est le vocabulaire qui est vraiment maladroit ?
Oui, qui est maladroit et qui par ailleurs cache d'autres choses qui sont quand même plus positives. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a compris. Il a vu d'ailleurs que la totalité des experts, y compris en France, étaient un peu étonnés par ce propos, y compris des gens quand même qui le soutiennent très fortement par ailleurs. Donc il a très bien compris, d'où le besoin, je dirais, de clarifier les choses et la réattiration d'un soutien à l'Ukraine. Le fait que la France, vraisemblablement, et ce sera une bonne clôture, de la présidence du Conseil de l'Union européenne va tout faire pour que l'Ukraine obtienne le statut de candidat dès le Conseil européen des 23 et 24 juin. L'annonce de la livraison d'armes, y compris d'armes lourdes nouvelles, il y a déjà des canons César, mais il y en aura d'autres à l'Ukraine. Les garanties de sécurité sur le port d'Odessa, tout ceci étant à l'étude, bien sûr. Mais donc il y a une sorte, si vous voulez, de tournant, et déjà j'ai l'impression de tournant beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sensé, en disant maintenant il faut vraiment que l'Ukraine gagne la guerre, c'est-à-dire reconquiert les territoires perdus du Donbass et du Crimée depuis 2014, voilà, et qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'il a rappelé, mais là c'était toujours sa position, l'intégrité territoriale et la souveraineté totale de l'Ukraine.
Alors maintenir le dialogue avec Poutine, c'est aussi la posture d'autres chefs d'État ou d'anciens chefs d'État, notamment Angela Merkel, l'ex-chancelière, et le nouveau Olaf Scholz, qui ont répété « Nous devons aider l'Ukraine tout en veillant à ce que cela ne débouche pas sur une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie ». Voilà, ils sont plusieurs. Il y a l'Italie aussi, le Sénégal pour d'autres raisons. Mais voilà, il y a ce discours qui surprend, vous aussi ?
Oui, il me surprend. Alors, c'est vrai que Angela Merkel, je dirais, est quand même en grande partie responsable de la situation aujourd'hui. C'est-à-dire que si en 2014, pas uniquement nous, Européens, aussi les Américains, quand même, avaient agi beaucoup plus fortement pour soutenir l'Ukraine dès 2014 contre l'agression russe et l'annexion du Donbass, si les sanctions avaient été si on était intervenu en livrant beaucoup plus d'armes à l'Ukraine pour contrer la menace russe, on n'en serait pas ici aujourd'hui.
Mais elle le dit d'ailleurs, Angela Merkel, que Poutine ne comprend que le langage de la force.
Voilà, et en même temps, quand on voit malheureusement son action, pourtant elle connaissait bien Poutine, elle parle toujours d'ailleurs bien le russe, de même que Poutine comprend l'allemand aussi. Et en fait, on s'aperçoit que ce dialogue n'a strictement rien donné, qu'il ne donnera jamais rien. Je me souviens, j'avais écrit un article en 2016 Guterres disant mais il ne faut pas négocier avec M. Poutine, alors peut-être garder quand même des canaux de communication ouverts, ça bien sûr, mais l'idée d'une négociation, d'une sorte d'accord avec M. Poutine est une illusion. Et je pense que si on avait été beaucoup plus fort dès notamment l'attaque contre la Géorgie en 2008, donc pour rappeler que 20% du territoire est toujours annexé, probablement aujourd'hui n'en serait-on pas là. Donc je pense que, voilà, et quant à M. Scholz, il a une position effectivement extrêmement ambiguë, d'ailleurs qui passe assez mal en Allemagne. Il y a beaucoup de membres de sa majorité, notamment les Verts, où il y a une partie de son opposition, une partie de la CDU, les chrétiens-démocrates allemands, qui trouvent que M. Scholz ne va pas assez vite, notamment dans la livraison d'armes, qu'il a toujours une position très ambiguë, et il y a quand même, pour le passé, ce péché capital qui a été la dépendance construite, quand même volontaire, envers le gaz russe.
Alors, il y a une autre tendance, enfin une actualité actuellement, c'est celle qui concerne le Sénégal, le président du Sénégal, Macky Sall, qui lui aussi a pris la parole là pour débloquer une situation. Il a rencontré récemment Vladimir Poutine pour lui demander de débloquer justement le transport de céréales et d'engrais vers le continent africain. Il parle de risques de famine bien réels. Et la présidence française a officiellement proposé hier d'aider à débloquer le port d'Odessa pour permettre d'exporter ces céréales ukrainiennes vers les pays qui en ont le plus besoin. Là encore, la France est prompte à réagir.
Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire que, bon, il y a la position de Macky Sall qui est peut-être un tout petit peu naïf s'il espère quelque chose de Vladimir Poutine.
Il a l'air confiant, en tout cas. Enfin, il fait beaucoup de communication.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de communication, mais je pense qu'il est un peu piégé, en quelque sorte. Je le comprends. Je ne jetterai certainement pas la pierre, parce qu'on comprend la situation dramatique de la plupart des pays africains. Et là, Macky Sall parlait pas seulement comme président du Sénégal, mais aussi comme président en exercice de l'Union africaine. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que la situation est quand même dramatique aussi, parce que vous avez énormément de pays d'Afrique, mais aussi d'ailleurs certains pays d'Asie qui dépendent des céréales ukrainiennes, le blé, le maïs, l'huile de tournesol, l'orge notamment, ce sont les quatre céréales principales. Voilà, et donc ça, concrètement, ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il a dit voilà, je vais aider à débloquer le port d'Odessa. Derrière, il y a quand même trois choses que je vais énumérer peut-être un tout petit peu vite. Premièrement, il faut bien sûr déminer le port qui a été miné par les Ukrainiens pour se protéger de l'envahissement russe.
Ça, c'est vrai.
C'est faisable. Techniquement, c'est faisable techniquement. Mais ça suppose, deuxièmement, des garanties de sécurité. C'est-à-dire que si le port d'Odessa est déminé, ça veut dire que les navires russes pourraient évidemment attaquer par là l'Ukraine. Et donc ça veut dire que les alliés, concrètement, soyons clairs, les États-Unis principalement, mais aussi bien sûr la France, le Royaume-Uni, d'autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN, devraient garantir la sécurité, bien sûr, du port d'Odessa. Ça veut dire une présence sur place.
Oui, c'est effectivement.
Et que, évidemment, la Turquie doit accepter, parce que pour l'instant, elle empêchait, bien sûr, l'entrée dans la mer Noire de bâtiments de guerre. Et troisièmement, ça suppose d'escorter les bateaux ukrainiens chargés de céréales qui quitteraient notamment le port d'Odessa, de sécuriser leur trajet jusqu'au bout pour veiller à ce que les céréales soient bien délivrées et veiller aussi à ce qu'ils ne soient pas attaquées.
Oui, parce qu'il y a entre 20 et 25 millions.
Par des navires.
Ouais, ouais. Voilà. Entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées. Hein. C'est énorme.
Oui, et certaines qui commencent à pourrir, malheureusement. On rappellera d'ailleurs aussi que quand même que la Russie, à Mykolaïv, a détruit quand même un des plus importants stockages de céréales, avec là aussi plus de 20 millions de tonnes de céréales. Enfin, on imagine le nombre de personnes que ça aurait pu nourrir. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans une sorte de guerre, mais ça suppose, bien sûr, encore une fois, une résolution très forte, des garanties de sécurité, une escorte militaire. Enfin, je veux dire, il y a derrière, si vous voulez, des choses très techniques, mais en même temps politiquement significatives, que les alliés devront faire avec, bien sûr, des risques d'affrontement, mais je pense qu'il faut consentir à ces risques d'affrontement aujourd'hui.
Alors, en termes de diplomatie, encore une fois, Nicolas Denzer, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est attendu ce mardi en Roumanie, mercredi en Moldavie. Ce sont deux pays voisins de l'Ukraine. Avec le ministre des Armées, il va aller à la rencontre des 500 soldats français déployés justement en Roumanie dans le cadre de l'opération Aigle, mais pas de visite officielle en Ukraine à ce stade. Alors, peut-être en petit comité, il va rencontrer Volodymyr Zelensky, qui vraiment souhaite rencontrer Emmanuel Macron avant la fin de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Vous en parliez, c'est le 1er juillet prochain. Quel est l'enjeu de ce timing ?
Je pense qu'il y a un premier enjeu, c'est d'abord tout simplement montrer que le président en exercice du Conseil de l'Union européenne vient à Kiev. Il n'y est pas allé. Il faut rappeler d'ailleurs que pendant les 5 ans de présidence, Emmanuel Macron n'y a passé que quelques heures au retour de Moscou, 5 jours, 6 jours avant la guerre. le début de la nouvelle guerre. Bon, donc Emmanuel Macron n'est pas allé à Kiev avant. Il est allé plusieurs fois en Russie, mais jamais en Ukraine. Mmh. Donc ceci, encore une fois, les Ukrainiens le savent, le perçoivent mal. Ensuite, il est un des rares chefs d'État et de gouvernement européens, et a fortiori président en exercice, à ne pas être allé pendant la guerre. Aujourd'hui, vous avez la deuxième visite pendant la guerre d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Il a préféré le téléphone, il a passé des heures et des heures au téléphone
mais une présence sur place, c'est-à-dire voir non seulement le président Zelensky, mais des représentants de la société civile ukrainienne, voir, je dirais, des personnes qui peuvent parler tout simplement des crimes commis, aller voir des hôpitaux, discuter avec des gens. Moi, c'est quelque chose personnellement que j'ai fait il y a 6 semaines, où je suis allé en Ukraine. Je veux dire, quand on discute avec les maires de Lviv, de Kiev, de Boutcha, la ville martyrisée, de Borodyanka, etc., on perçoit aussi la réalité de ce que vivent les Ukrainiens. Et je pense que ça, c'est très important pour Emmanuel Macron. Alors, il pourrait y aller éventuellement, bien sûr, son déplacement doit être tenu secret pour des raisons de sécurité à l'avance, ça on le comprend parfaitement, soit après la Moldavie, c'est quand même pas très très loin, soit il y a une petite fenêtre de tir entre le Conseil européen des 23-24 juin et le sommet de Madrid de l'OTAN entre le 28 et le 30 juin. Donc c'est aussi une autre fenêtre de tir. Mais effectivement, il doit y arriver avec quand même quelque chose de concret. D'abord, évidemment, le soutien au statut de candidat dès le Conseil européen de juin. Alors, ça peut être avant, ça peut être après, mais je pense que ça, c'est important. L'annonce, effectivement, de fourniture de nouvelles armes. La définition claire de but de guerre, qui a aidé l'Ukraine concrètement à reconquérir les territoires perdus. Je crois que tout ceci, évidemment, est tout à fait important. Il s'est fait voler la vedette, hein, Emmanuel Macron, oui, par le président polonais Duda. Vous savez, c'est le premier président, le seul d'ailleurs, je crois, qui, en temps de guerre, a parlé devant la Rada, donc le Parlement ukrainien. C'était un geste extrêmement fort. Mmh. Donc je pense que là, il y a quelque chose effectivement à rattraper et c'est effectivement urgent.
Alors on va revenir plus près de chez nous, en France. Hein. Je rappelle que vous avez fait l'école normale, hein, et l'ENA, promotion 84-86, promotion d'Hydro. Je vous parle pourquoi de l'ENA, parce qu'il y a eu une grève très rare. Hein. C'est un symbole qui est fort, c'est une institution. L'ultime promotion donc, de l'ENA, créée, faut-il le rappeler, en 1945 par le général de Gaulle, eh bien, c'est une colère, une mobilisation des élèves qui déplorent la formation chaotique, des modifications brutales du contenu des enseignements et une improvisation généralisée. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est l'attractivité même de la fonction publique qui est en danger ?
Oui, ce n'est pas un sujet nouveau, à vrai dire. Hein. Vous savez, moi, j'ai fait un de mes 3 rapports officiels au gouvernement. C'était un rapport sur la fonction publique en 2000. Déjà, je constatais, effectivement, il y a une démotivation des hauts fonctionnaires, beaucoup, effectivement, dont la carrière s'arrête souvent à l'âge de 40, 45 ans, qui après n'ont plus véritablement de fonction. Il y a, dans certains cas, effectivement, une sorte de prééminence donnée à des membres de cabinet par rapport à des fonctionnaires blanchis sous le harnais, une absence de mobilité, un vrai engagement, si vous voulez, au service de l'État qui, pour certains, ne fait plus sens aussi. Et puis, une formation, concrètement, qui, à l'ENA, ne s'est pas beaucoup améliorée. Et dans le nouvel institut, je dirais, du service public, il y a apparemment un certain nombre de flottements.
Qui s'inscrit dans le siège de celle des diplomates, d'ailleurs.
Voilà, et effectivement, vous avez eu la grève du Quai pour des raisons compréhensibles, hein, qui sont aussi, d'ailleurs, la diminution constante des moyens. Hein. Moi, je l'avais tracé dans un grand rapport, j'ai fait 2 rapports, en fait, d'audit du Quai, hein, en 2002 et 2008, là aussi. Et déjà, on déplorait la baisse de moyens, hein, comparativement à nos partenaires, comparativement à l'Allemagne, même parfois à l'Italie, à d'autres pays. Tout ceci est normal, et puis surtout, un vrai problème de carrière. C'est-à-dire que comment motiver des gens dont la carrière va très vite s'arrêter. Et donc, du coup, ça freine quelque chose qu'Emmanuel Macron souhaitait, à mon avis, a raison, hein, puisque c'était même des recommandations, ça fait partie des recommandations que j'émettais à l'époque, favoriser une plus grande mobilité entre les ministères.
Mmh. Pour vous, il y a un vrai risque, selon vous, pardon, Nicolas Tenzer, qu'on fragilise l'outil diplomatique français, on l'affaiblisse quelque part.
Oui, il y a un vrai risque. Le Quai a beaucoup de défauts, beaucoup de gestion dans sa gestion, mais aussi quand même une perte considérable de moyens d'action, de moyens d'influence. Alors, ouvrir le Quai, oui, bien sûr, il le faut. Moi, je suis le premier, encore une fois, je l'ai
recommandé. Le Quai d'Orsay, hein, je précise pour nos
auditeurs. Le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, absolument. Il faut l'ouvrir à d'autres personnes, mais pas l'ouvrir à des gens selon des critères politiques, mais d'abord selon des critères de compétence. Il y a quand même des gens en France qui travaillent sur les questions de politique étrangère, ils ne peuvent pas devenir diplomates. Inversement, beaucoup de diplomates ne trouvent pas de débouchés ailleurs, dans une université, dans un think tank, pendant très longtemps, où il y en a extrêmement peu. Je trouve qu'il faut à la fois mettre en mouvement cette fonction publique, lui donner beaucoup plus de variété, de diversité, et en même temps garder quand même des cœurs de métier, donner des perspectives aux gens, motiver les gens. Je trouve ça assez dommage, effectivement. Quand on voit les jeunes, soit même des étudiants que j'ai, les étudiants aujourd'hui sont beaucoup moins attirés par les métiers de service de l'État. Il y a une perte de vocation. Moi, je sais, quand je suis entré moi-même au service de l'État, pour moi, c'était une vraie vocation.
Ouais. C'est quelque aujourd'hui, chose c'est plus
qu'on
compliqué.
Retrouve plus aujourd'hui. Ouais. Et c'est un vrai sujet, mais qui dépasse encore une fois. Et je pense que même sur l'ENA, on a beaucoup traité, je dirais, des questions de statut, de formation, on a visé le symbole de l'ENA, mais quelles sont les compétences, les connaissances, la culture, l'éthique, les principes que doivent avoir un haut fonctionnaire, toutes ces questions de fond, et quelles sont les formations adéquates, hein, notamment par les humanités, la littérature, la philosophie, le droit, et aussi peut-être un peu de recherche. Hein. Oui. Toutes ces questions-là ont été complètement évacuées. Il y a eu une réforme très technocratique, en quelque sorte, mais pas une réforme qui faisait sens.
Je sens que je vais vous inviter dans le studio pour faire un débat autour de ce sujet qui est palpitant aussi.
Ah bah écoutez, volontiers.
Merci beaucoup en tout cas Nicolas Tenzer pour cet échange palpitant et bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1 bien sûr.
Merci, à vous aussi, merci.
Allez, on reste ensemble bien sûr, l'aventure continue, Europe 1, Europe Sport week-end, Europe Soir week-end, pardon. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.